Le journal présenté par Sophie Delpont.
Bonjour à tous. Le Conseil de sécurité des Nations Unies décide d'envoyer 4000 casques bleus supplémentaires au Sud-Soudan contre l'avis des autorités. En juillet, les violences ont fait plus de 300 morts. Analyse à suivre avec Nabila Hamel dans un instant. L'ONU qui publie aujourd'hui un rapport accablant sur la répression des opposants au Burundi. 350 exécutions sommaires, 650 cas de torture, des viols commis entre avril 2015 et avril 2016. Les détails de ce rapport dans un instant avec Valérie Crova. Fidel Castro fête ses 90 ans aujourd'hui, symbole de la révolution cubaine, devenu symbole de la dictature. Quelle est la situation des habitants 120 ans après le départ, 10 ans après le départ de la présidence? Les précisions de Claude Guibal à suivre. Un pèlerinage sous très haute sécurité à Lourdes. Le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve annonce le déploiement de 508 membres des forces de sécurité, alors que plus de 20 000 pèlerins sont attendus pour le 15 août. Nous rejoindrons notre envoyé spécial sur place, Leïla Meshaouri. 4000 casques bleus supplémentaires envoyés au Soudan du Sud, dans la capitale Djouba. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté cette résolution hier. Nabila Hamel, bonjour.
Bonjour.
Alors, cette résolution était réclamée par des dirigeants africains depuis un mois, alors qu'une flambée de violence a fait plus de 300 morts au mois de juillet.
Oui, alors un petit rappel d'abord de cette crise au Soudan du Sud. Elle est née de la rivalité entre deux dirigeants politiques, le président Salva Kiir et son vice-président Riek Machar, mis à l'écart en 2013, soit 2 ans après l'indépendance de ce tout nouvel État. Depuis, les deux hommes s'affrontent sur le terrain via leurs ethnies respectives, les Dinka et les Nuers. Vous avez donné le bilan du mois de juillet, mais il faut savoir que l'on en est déjà à plusieurs milliers de morts en 2 ans et ce conflit a déplacé des centaines de milliers de personnes. Alors le cessez-le-feu mis en place en 2015 n'a jamais été réellement respecté. Du coup, l'ONU a autorisé hier le déploiement de 4000 casques bleus, vous le disiez, pour assurer la paix à Juba, la capitale, et protéger les édifices stratégiques comme l'aéroport. Une mission délicate car le président Salva Kiir s'est dit prêt à accepter des troupes régionales, des soldats africains, mais pas un contingent sous mandat onusien. Son rival, Riek Machar, soutient lui, au contraire, le parrainage par l'ONU de cette force d'interposition. Et c'est d'ailleurs à ses yeux la seule garantie pour qu'il puisse regagner Juba, où un gouvernement d'union nationale a été désigné sans pour autant donner un réel espoir de réconciliation. Alors l'ONU a procédé par étapes. D'abord cette résolution du Conseil de sécurité qui a été votée hier soir, notamment par les États-Unis. On rappellera que c'est le pays qui a pesé le plus pour la création de cet État du Soudan du Sud. Deux autres membres importants de l'ONU, la Chine et la Russie, se sont abstenus. Et surtout, pour l'ONU, les autorités de Juba sont menacées d'un embargo sur les armes en cas d'absence de progrès sur le terrain.
Merci Nabila Hamel. Le comité contre la torture des Nations Unies accuse les autorités burundaises d'avoir commandité des centaines d'exécutions sommaires, des sévices corporels et des viols à partir d'avril 2015. Une répression massive et organisée face aux manifestations contre le président Nkurunziza qui avait décidé de se présenter pour un troisième mandat. Valérie Crova s'est procuré ce rapport accablant.
Le document ne fait que 12 pages. Il a été établi avec l'aide d'ONG burundaises. Le comité contre la torture de l'ONU y décrit les exécutions extrajudiciaires, les actes de torture, les mauvais traitements, les arrestations arbitraires, les disparitions forcées, une liste terrifiante. 348 exécutions sans procès ont pu être établies, la plupart commises par les membres de la police et des services de renseignement, assistés par des jeunes affiliés au parti au pouvoir qui n'hésitaient pas à tuer d'une balle dans la tête ceux qu'ils soupçonnaient de faire partie de l'opposition. Entre avril 2015 et avril 2016, plus de 650 cas de torture ont été recensés, certains commis pour des motifs ethniques. Les cas d'arrestation arbitraire et de détention illégale se comptent par centaines. Des rafles ont été organisées dans les quartiers contestataires du président Nkurunziza. Pour donner une idée de l'ampleur du phénomène, le bureau du Haut Commissariat pour les droits de l'homme au Burundi a documenté 5881 arrestations, dont plus de 3000 sont qualifiées d'arbitraires. Enfin, il est avéré que les forces de l'ordre et les Imbonerakure, ces jeunes miliciens à la solde du pouvoir, ont utilisé le viol comme méthode de répression. Les auteurs de tous ces crimes restent jusqu'à présent impunis. Certains ont été déférés devant la justice burundaise sans pour autant être inquiétés en raison de leur appartenance aux forces de défense et de sécurité.
Valérie Crova, le gouvernement burundais dispose maintenant de 2 mois pour répondre à ces accusations. Au Gabon, la course à la présidence est lancée depuis ce matin à 2 semaines de l'élection. Ali Bongo, au pouvoir depuis 2009, brigue un nouveau septennat. Le 27 août prochain, ils seront 13 candidats face au président sortant. Autre élection présidentielle en Zambie, cette fois le chef de l'opposition, l'homme d'affaires Hichilema, devancerait le président sortant Edgar Lungu selon les tout premiers résultats de l'élection de jeudi qui sont publiés seulement aujourd'hui. La commission électorale avait retardé cette publication hier en raison d'un fort taux de participation, les opérations de décompte ayant pris plus de temps que prévu selon les autorités. En Syrie, Daesh aurait libéré des centaines d'habitants pris en otage à Manbij dans le nord du pays, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme ce matin. Des civils enlevés et utilisés par les djihadistes comme boucliers humains. En tout, près de 2000 personnes auraient servi à protéger la fuite des djihadistes des tirs des forces démocratiques syriennes de la coalition à Manbij dans le nord du pays. Son nom est le symbole d'une époque. Fidel Castro fête aujourd'hui ses 90 ans. Le célèbre président de Cuba a survécu à 10 chefs d'État américains. Et même s'il a quitté le pouvoir, celui qui a échappé à 600 tentatives d'assassinat continue de peser dans l'histoire de son pays. Son pays qui est en train de se rapprocher des États-Unis, Claude Guibal.
C'était il y a quelques mois et Fidel Castro s'adressait aux membres du Parti communiste, des mots chevrotants pour dire qu'à 90 ans, sa fin est désormais proche, mais que les idéaux révolutionnaires, eux, ne sont pas prêts de s'éteindre. C'est pourtant un tournant, la fin d'une époque qui a débuté à Cuba il y a 10 ans tout juste, lorsque la santé vacillante du leader Maximo l'a poussé à passer la main à son frère cadet Raoul. Un changement qui a vu le début de réformes économiques qui ont permis au pays de s'ouvrir très progressivement au secteur privé et aux Cubains qui en ont les moyens de commencer à pouvoir acquérir certains biens de consommation. Mais les inégalités se creusent entre les Cubains qui ont accès à ce secteur privé où circule le CUC, une monnaie forte, et ceux qui dépendent du secteur public et sont payés en pesos, une monnaie interne si faible qu'elle ne permet même pas d'acheter certains produits de première nécessité comme le savon qu'il faut payer en CUC. Le rapprochement avec les États-Unis, la visite historique de Barack Obama cette année sont une nouvelle révolution pour les Cubains, certes, mais elle sera lente. Le processus de normalisation reste semé d'embûches et plonge le pays vers une forme d'inconnu.
Les précisions de Claude Guibal. Il y a tout juste 60 ans, la Tunisie faisait un grand pas pour le droit des femmes avec le code du statut personnel. Habib Bourguiba abolissait la polygamie et autorisait le divorce. Tout faire pour éviter un nouvel attentat en France. À Lourdes, dans les Hautes-Pyrénées, l'un des premiers lieux de pèlerinage catholique dans le monde, le ministre de l'Intérieur a annoncé ce matin un dispositif de sécurité renforcé. Leïla Mechaoui, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre envoyé spécial à Lourdes et Bernard Cazeneuve a voulu rassurer ce matin alors qu'on attend plus de 20 000 pèlerins pour la messe du 15 août.
Oui, exactement. Avec cette visite dans le sanctuaire de Lourdes, Bernard Cazeneuve a très clairement voulu avant tout rassurer. Il affichait son calme, sa sérénité à 2 jours de l'Assomption où entre 20 000 et 30 000 pèlerins vont se réunir ici à Lourdes, vous venez de le dire. Le ministre de l'Intérieur a pris le temps de saluer un à un les membres des forces de l'ordre sur son chemin. Près de 300 hommes supplémentaires mobilisés en ce week-end du 15 août. Des policiers, des gendarmes, militaires, pompiers et secouristes, mais aussi une équipe de démineurs. Bernard Cazeneuve s'est voulu rassurant également envers les pèlerins avec lesquels il a échangé et qui l'ont remercié de ce passage à Lourdes. L'État veille sur les catholiques en cette période très importante pour eux, leur a-t-il assuré. Une visite ministérielle tout en symbole, bien sûr, quelques semaines après la tragédie de Saint-Étienne-du-Rouvray et l'assassinat du père Hamel. Il faut savoir qu'aucun ministre n'avait plus mis les pieds dans ce sanctuaire depuis plus de 10 ans. La dernière fois, c'était en 2004. Dominique de Villepin avait assisté à la messe du 15 août et puis plus récemment, en 2013, Manuel Valls, alors ministre de l'Intérieur, s'était bien rendu à Lourdes, mais il n'était pas rentré dans le sanctuaire. Et puis, cette visite ministérielle, c'était aussi bien sûr et surtout peut-être celle du ministre des Cultes. Et Bernard Cazeneuve a profité de son passage à Lourdes pour remercier et exprimer toute sa gratitude envers les autorités ecclésiastiques, gratitude pour leur discours qualifié de responsable et d'humaniste, de pacifique après l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray. C'est en se rassemblant tous autour des valeurs de la République et de la France que nous serons à la hauteur de la menace terroriste, et elle est encore extrêmement forte, prévient Bernard Cazeneuve. Il ajoute que sur les 60 grandes manifestations encore prévues d'ici la fin de l'été en France, une dizaine ont été annulées pour raisons de sécurité.
Merci Leïla Mechaouri pour toutes ces précisions. Le temps, du soleil partout aujourd'hui, des températures comprises entre 20 et 35 degrés, maximum 35 à Bordeaux.